RCF.
C'est le lundi, on a du mal à se mettre en jambe du côté de Thierry, mais faut avouer à moitié pardonner. Thierry, tout va bien, on ne vous en veut pas. Merci d'être là à la mise en onde, parce que sans les techniciens, rien ne serait possible. Un magazine régional où vous entendrez Jean-Pierre Benoît qui veut nous rejoindre d'ici quelques minutes, mais aussi nos stagiaires à la rédaction. Certains nous accompagnent et sont au chômage technique ce soir. Pour moi aussi, la mise en jambe est difficile. Kylian est avec nous. Bonjour Kylian.
Bonjour Alexis.
Chômage technique, puisque dans la colonie de nos stagiaires, Manon est toujours là le lundi soir. Elle a entraînement de piscine, de natation synchronisée. Donc elle ne reste pas en direct, mais on a récupéré un petit nouveau, c'est Mathéo qui nous accompagne. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
Et c'est lui qui présentera la météo à l'intérieur du journal régional qui débutera à 18h30. Avant cela, dans quelques instants, regard sur le monde, l'élection présidentielle argentine, c'est ce que nous propose Jean-François Boulanger, un maire qui vous parle aux alentours de 18h20. C'est Franck Bailly, le maire de Cerzy-Éprin, une commune de la Marne. Et puis une deuxième partie d'émission consacrée aux radiodons, bien évidemment, vous en entendez parler depuis ce matin sur les ondes de RCF au niveau national, au niveau local. Le Radiodon, c'est cette campagne annuelle où on sollicite votre soutien. Merci pour votre fidélité. Encore un plus grand merci pour votre générosité. On parlera de l'intérêt de cette campagne et du Radiodon, de l'importance de nous soutenir avec Gabriel Francard, le président de RCF Cœur de Champagne, mais aussi avec Geneviève Loison, trésorière de RCF Reims-Ardenne. Et puis les meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous les auditeurs, c'est vous les donateurs. Ce soir, Geneviève sera avec nous depuis Reims pour témoigner des bienfaits de RCF lorsqu'elle écoute notre station. 18h12, après ce sommaire, je vous propose pour commencer de retrouver notre chroniqueur. Regard sur le monde avec Jean-François Boulanger. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et on va regarder aujourd'hui ce qu'il s'est passé en Argentine avec l'élection présidentielle. Le candidat d'extrême droite, Javier Milei, élu président, l'économiste ultralibéral et polémiste qui se présente comme anti-système, l'a emporté avec 55,6% des voix, selon de premiers résultats partiels contre 44,3%. Donc pour le centriste Sergio Massa, qui a reconnu sa défaite, il est le président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en Argentine en 1983. L'événement mérite qu'on fasse un focus dessus tout de même.
Tout à fait, d'autant plus qu'il faut revoir son programme. Son programme, c'est notamment l'abolition de la Banque centrale argentine et la suppression de la monnaie locale, le peso argentin, pour ouvrir la voie à une dollarisation totale de l'économie. En outre, il a l'intention d'introduire des mesures d'austérité dans le cadre des efforts de son administration pour stabiliser donc l'économie. Il a emporté contre un candidat péroniste, Sergio Massa, qui était ministre de l'économie sous le gouvernement précédent, le gouvernement kirchneriste du nom de l'ex-présidente Cristina Kirchner, qui correspond à une branche du péronisme. Et le bilan de ce gouvernement était vraiment très catastrophique, 140% d'inflation, 50% de pauvreté, une croissance donc en berne, des réserves de la banque centrale au plus bas et un déficit abyssal du budget de l'État.
Une des raisons de la victoire de Javier Milei est donc l'échec du péronisme, Jean-François.
Absolument. Alors quelques mots justement sur le péronisme qui structure en fait la vie politique argentine depuis les années 1930, c'est-à-dire presque un siècle. Au début du XXe siècle, l'Argentine était ce qu'on appellerait aujourd'hui une puissance émergente parce qu'elle exportait des produits agricoles, le blé, la viande surtout, comme aujourd'hui certains pays exportent du pétrole ou du gaz naturel. Elle en tirait des revenus importants, de spectaculaires fortune s'était bâtie sur cette économie montante. Les grands milliardaires de l'époque, c'était des Argentins. Et la crise des années 30, avec la baisse du cours des matières premières, avait tout remis en cause. Et c'est dans ce contexte-là qu'un militaire, Perón, était arrivé au pouvoir. Il avait mené une politique de redistribution sociale auprès des plus pauvres, ceux qu'on appelle les sans-chemises, et procédé à un début d'industrialisation. Notamment, cette politique en direction des plus pauvres se faisait sous la direction de sa femme, Evita Perón, que tout le monde connaît, et qui avait acquis une popularité considérable. Donc il a fini par être renversé, mais le péronisme n'a pas disparu pour autant. Il continue à exister, il s'est scindé en de multiples courants qui vont de l'extrême gauche à un centre-gauche plus ou moins social. Sur le plan économique, le pays, en raison des redistributions sociales que j'ai évoquées, avait rapidement vécu au-dessus de ses moyens et avait connu depuis cette époque-là de multiples difficultés avec une inflation très forte et récurrente, des problèmes monétaires sans fin, des défauts de paiement répétés qui entraînait un recours régulier au FMI. Et la dictature militaire n'avait rien arrangé, bien au contraire.
Et c'est contre cette situation que le président élu veut lutter par des mesures que vous nous avez présentées plutôt radicales, on peut le dire, Jean-François.
Voilà, effectivement. Simplement, ce qu'il faut savoir, et ce sur quoi on va éclairer nos auditeurs, c'est que l'histoire récente de l'Argentine a été marquée par des expériences assez semblables.
À quoi faites-vous allusion, Jean-François ?
Eh bien, après la dictature militaire, les élections avaient mené au pouvoir un président radical qui s'appelait Alfonsine. Le parti radical, en fait, c'était l'autre parti en dehors des péronistes. Il avait récupéré un pays affaibli économiquement, voire ce que j'ai dit précédemment, et il s'était forcé de juguler l'inflation. Et donc, pour cette raison, parce que le pays était au bord du défaut de paiement, Alfonsine avait décidé un plan qui abandonnait pour la première fois le peso pour une nouvelle monnaie qu'on appelait l'austral sur la base de 1000 pesos pour un austral. Le plan gelait les prix et les salaires, donc on cesse l'impression massive de monnaie, on met en place des coupes dans les dépenses de l'État. Au début, c'est un succès, on stabilise temporairement l'inflation, mais très vite, le plan trouve ses limites parce que les prix à l'exportation s'envolent, donc la dette extérieure augmente, tandis que le gouvernement sort en permanence aux syndicats et aux péronistes qui rejettent le gel des salaires. Donc le gouvernement cède finalement, relance l'augmentation de la masse monétaire, l'inflation repart, le plan est abandonné en 1988 pour un nouveau plan, sans effet également, puisqu'on arrive à un taux annuel d'inflation de 343% par an, et en 1989, on monte à 3000% d'inflation par an. À la suite des émeutes, Alfonsine va démissionner 5 mois avant la fin de son mandat, et l'élection suivante amène au pouvoir un péroniste, Carlos Menem. C'est donc le retour du péronisme.
Et que va faire ce Carlos Menem dont vous nous parlez ?
Alors, il a gagné la campagne électorale sur des bases totalement anti-libérales, donc il abandonne l'austral, on revient au peso, mais très vite, il fait volte-face parce qu'il prend conscience que l'hyperinflation ne peut pas être réglée. Et pour cela, il va décider donc d'instaurer la dollarisation de l'économie. Vous voyez déjà la dollarisation. C'est en 1992. Alors, on a un nouveau peso dont le cours est aligné sur celui du dollar. En gros, un peso égale un dollar. C'est une monnaie clairement surévaluée. Et donc, le gouvernement ne fabriquera plus de monnaie locale tant que l'Argentine n'a pas dans ses caisses les dollars correspondants. Et donc, on a dit à ce moment-là que l'Argentine devenait un pays de pauvres avec une monnaie de riches. Du coup, d'ailleurs, beaucoup ouvrent des comptes en dollars. L'inflation est maîtrisée. On passe de 140% d'inflation en 1990 à moins de 10% en 1992. Par ailleurs, les entreprises étrangères investissent sans crainte les aléas monétaires locaux. C'est notamment des entreprises automobiles. Les grands propriétaires terriens rapatrient leurs capitaux en Argentine et la croissance du PIB dépasse 10% en 91 et 92. Les taux d'intérêt sont très bas, donc ce qui incite les Argentins à s'endetter. Par ailleurs, donc 80% des sommes gagnées par les entreprises privatisées sont rapatriées en dollars à l'étranger. Donc voilà en quelque sorte le bilan.
Cependant, le bilan reste favorable sur l'ensemble des éléments que vous nous présentez.
Absolument. Et c'est ce qui permet à Menem d'être réélu en 1995 pour 4 ans. Il laisse sa place en 99 à Fernando de la Rúa dans un contexte économique qui, justement, est en train de se détériorer.
Pourquoi ?
Parce que le système est fiable tant que le dollar ne s'apprécie pas par rapport aux monnaies des autres pays avec lesquels l'Argentine commerce. Mais en 1998, le dollar remonte. Du coup, le real brésilien, le Brésil c'est un voisin évidemment, est dévalué. Par conséquent, les exportations argentines reculent brutalement. Les dollars n'entrent plus dans le pays en assez grand nombre. Par conséquent, la circulation monétaire se réduit, le crédit se resserre. Si on ajoute à cela que la privatisation des services publics a abouti à une augmentation des prix rendue nécessaire par la nécessité de réparer des installations qui avaient été mal entretenues depuis 1945, la situation devient explosive. Le gouvernement est coincé. Il ne peut pas dévaluer le peso à moins de remettre en cause les contrats signés avec les bailleurs de fonds étrangers qui sont en dollars. Cela serait la défaillance en fait de la dette souveraine.
Comment la crise se termine-t-elle, Jean-François Boulanger ?
Eh bien, justement, on décide finalement de limiter les retraits bancaires à 250 pesos par semaine et donc on interdit tout envoi de fonds à l'étranger. Résultat, les déposants se ruent dans les banques avant que la mesure n'entre en vigueur. C'est prévu pour le 1er décembre. Le FMI offre à ce moment-là son aide à un pays qui effectivement n'est plus en moyen de régler ses problèmes. Ajoutez à cela une épidémie qui met en cause les exportations de viande, épidémie bovine. Donc le chômage atteint 20% à la fin de 2001 et la pauvreté atteint le taux de 50%. La classe moyenne qui avait profité de la parité peso-dollar est particulièrement touchée. Des manifestations ont lieu les 19 et 20 décembre. 300 magasins sont pillés. Le slogan des manifestants, c'est « qu'ils s'en aillent tous ». Et de la Roua, il doit décréter l'état de siège. La répression fait 31 morts. Donc finalement, le président doit quitter le palais présidentiel à bord d'un hélicoptère pour échapper à la foule déchaînée. Donc vous le voyez, l'expérience s'est terminée par un fiasco total.
Eh bien, en tout cas, un grand merci Jean-François Boulanger de nous avoir ramené, j'allais dire, aux racines des programmes présidentiels en Argentine au moment où une nouvelle élection vient de se tenir. Et à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Qui dit 18h21 dans le magazine régional du lundi au vendredi, vous en avez pris l'habitude depuis la rentrée, c'est le rendez-vous, un maire qui vous parle, direction Cerzy-Éprin dans la Marne avec Jean-Pierre.
Franck Bailly, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Alors on dit Cerzy ou on dit Cerzy-Éprin?
Ah, j'y suis très attaché, on dit Cerzy-Éprin parce que Cerzy est un joli village de la vallée de l'Indre, mais Prin est un magnifique hameau avec un superbe château.
On va découvrir avec vous votre commune de Cerzy. Combien d'habitants à Cerzy?
Donc à Cerzy, à peu près 200 habitants. À Cerzy-Éprin.
À Cerzy-Éprin. Alors ces habitants, on situe bien la commune. Pour nos amis des Ardennes, on sait que vous êtes en zone viticole. On imagine qu'il y a pas mal de viticulteurs dans votre commune.
Oui, il y a 7 ou 8 viticulteurs, ce qui est beaucoup pour un village de 200 habitants. Mais il y a aussi des terres agricoles et il y a aussi des bois. C'est tout l'intérêt de la vallée de l'Indre qui a un paysage très varié, très joli.
Alors c'est vrai que les habitants sont plus des viticulteurs, mais il y a quand même une petite variété. Tout le monde n'est pas viticulteur dans la commune de Cerzy-Éprin.
Non. Il y a le bassin de vie à Reims et il y a quasiment moitié des actifs qui vont à Reims tous les jours pour aller travailler.
Combien de kilomètres à peu près, Franck Bailly? Une vingtaine, enfin.
Une bonne vingtaine de kilomètres.
Une bonne vingtaine de kilomètres. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler. Et vous-même, vous êtes maire depuis combien de temps, vous, Franck Bailly, à Cerzy-Éprin?
Donc moi, je suis maire depuis 9 ans.
Alors avant, on imagine, c'est souvent le cas, vous avez été au conseil municipal, peut-être adjoint. Vous étiez même peut-être habitant de la commune depuis toujours. Vous êtes de là-bas, comme on dit.
Oui, je ne suis pas né à Cerzy-Éprin, mais j'y ai toujours vécu, bien sûr. Et puis, j'ai été adjoint pendant 6 ans. Et après, j'ai fait une pause pour raison personnelle pendant 6 ans. Et après, donc, maire pour 2 mandats.
Alors, c'est vrai que le maire, on dit souvent, c'est un personnage qui compte. Parce que, bon, c'est le premier élu qu'on voit, qu'on rencontre. On imagine que vous connaissez quasiment tout le monde dans le village.
Ah, je connais tout le monde, oui, bien sûr. Oui.
Alors, justement, quand on connaît tout le monde, peut-être que on a tendance à vous solliciter, à vous demander, alors qu'il y a des gens qui ont plus ou moins bon caractère, il y a des gens gentils, c'est comme partout. Mais en fait, vous êtes souvent quand même sur la brèche, comme on dit. Vous avez plus de travail qu'on ne pense. On n'imagine pas le travail d'un maire aujourd'hui.
Ouf, faut relativiser, c'est pas non plus insurmontable. C'est du travail, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est pas insurmontable, encore une fois, ça va.
Alors, évidemment, maintenant, depuis quelques années, il y avait des communautés de communes, mais maintenant, il y a quand même le Grand Reims. C'est un peu familier, je le dis à chaque fois au maire. Est-ce qu'il est quand même, moi je crois que lui, quand même, le patron dans sa commune? C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un Grand Reims, on se dit, il n'est plus tout à fait le chef du village, mais il l'est quand même.
Alors, avec le Grand Reims, il y a quand même une chose qui est très bien, c'est que le conseil municipal garde le droit de veto. Alors le droit de veto, ça veut dire que si le Grand Reims a un projet et que le conseil municipal ne le valide pas, c'est le conseil municipal qui a le dernier mot. Donc vous voyez, donc déjà, c'est déjà pas mal. Après, c'est évident que le travail du maire a changé. On est plus un intermédiaire avec le Grand Reims qui va réaliser, on va contrôler les travaux, on fait les demandes, mais on n'est plus, on n'est plus décideur complètement sur les travaux qui sont faits dans le village.
Alors évidemment, on vous demande parfois des services un peu personnels, vous demande de régler telle ou telle situation. Il y a un maire l'autre jour qui nous dit parfois quand une personne d'un certain âge a des problèmes informatiques, elle veut voir le maire, elle dit j'arrive pas à faire ça.
Mais c'est évident, d'autant plus que maintenant avec l'administration, on n'a plus d'interlocuteur physique, et donc le secrétariat de mairie reste le dernier endroit où on peut venir demander un renseignement, et surtout dans le milieu rural, les personnes âgées n'ont pas forcément Internet. Là, le rôle du secrétaire de mairie, autant que du maire, est très important dans les communes.
C'est là qu'on se rend compte de l'importance de la proximité d'un village, d'un maire, parce que c'est des gens qui verraient personne de l'administration. Si Reims est à 25 km, ils vont pas y aller comme ça facilement, si c'est une personne âgée.
Même que le pôle de proximité, les gens n'y vont pas. Ça passe, tout passe par la mairie, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on ait gardé ce lien, si vous voulez.
Avec les habitants.
Parce que nous, bah, par exemple, en période de canicule, en période de tout ça, on connaît les habitants, on peut se permettre d'aller les voir, de les conseiller, que forcément, une grande ville ne s'est pas fait.
Alors Franck Bailly, alors il n'y a peut-être pas de projet urgent en cours, mais est-ce qu'il y a quand même un ou deux projets qui se sont terminés, d'autres que vous avez quand même dans vos valises? Il se passe toujours quelque chose quand même dans une commune, si c'est pas la voirie, c'est des fleurs, c'est une école, il y a toujours quelque chose.
Mais justement, si vous voulez, comme la communauté urbaine a pris des compétences, ça a permis au conseil de se dégager du temps pour d'autres compétences qui sont tout aussi intéressantes. Je vais vous parler par exemple de la biodiversité. On a énormément travaillé sur la biodiversité du village en plantant des haies, en mettant des arbres, en créant un verger, en créant des mares. Donc on a énormément travaillé dessus. Et ça, on n'aurait peut-être pas eu le temps si on avait dû gérer la totalité des écoles comme c'était avant.
Alors une question peut-être. Une question, je vais peut-être tomber à côté de la plaque. Quand on n'est pas loin de Reims, surtout avec le Covid, on a pensé à cette période. Il y a des gens qui trouvent que les logements sont chers ou les maisons sont chères à Reims et dans l'agglomération rémoise, mais que peut-être dans un village, est-ce qu'il y a des jeunes ou des personnes qui viennent s'implanter quand même? Il n'y a peut-être pas beaucoup de terre avec les vignes, hein. c'est peut-être difficile.
Il y a très peu de terrain constructible.
Bah oui, c'est sûr.
Il n'y a plus de terrain constructible. C'est presque une volonté du conseil parce que, si vous voulez, c'est bien de garder la typicité du village avec ses belles terres.
Oui.
Par contre, le petit souci qu'on a, si vous voulez, c'est qu'avec le vignoble, il y a des salariés du vignoble qui sont obligés d'aller habiter à Fismes ou à Reims parce que les loyers sont trop chers, parce que nous, c'est que des maisons individuelles. Et donc, c'est un petit peu dommage, si vous voulez, qu'il y ait ce décalage et qu'en milieu rural, il n'y ait pas des petites structures, justement, pour les jeunes qui démarrent, qui ont des salaires un peu moins élevés, qui puissent avoir des petits logements dans les campagnes. Ça,
c'est
le petit regret que j'aurais, vous voyez,
oui.
pour le salarié du vignoble qui démarre.
Oui. Ce qui est intéressant, Franck Bailly, c'est qu'au fond, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'à Cerzy-Éperin, il y fait bon vivre. On imagine, alors on est à la radio, on n'a pas d'image, mais on est dans la vigne, on n'est pas loin de la vallée de l'Arve, on a les vignes, on a vraiment une qualité de vie. Ça aussi, ça n'a pas de prix.
La qualité de vie, c'est indéniable, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, au niveau du conseil municipal.
Alors la dernière question, puisqu'on arrive presque au terme de notre émission, Franck Bailly, c'est évidemment la même question que je pose à chacun pour toute l'année. Après, on changera si on continue cette émission. Êtes-vous un maire heureux? Parce que on entend tout le temps les gens se plaindre. Pas chez les maires, hein, mais souvent, on se dit, oh là 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 là, dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de plaintes que d'encouragement. Vous êtes un maire heureux, finalement. Vous êtes passionné de ce que vous faites.
Je suis passionné. Et puis en plus, si vous voulez, le fait d'être maire m'a permis de faire des rencontres que je faisais pas dans le milieu professionnel. Donc, si vous voulez,
ça ouvre vraiment... des horizons. Ça ouvre des.
Ça ouvre des horizons. Ça, c'est indéniable. Après, faut pas faire le mandat de trop. Si vous voulez, deux mandats, je considère que c'est bien. Et puis après, je serais encore plus heureux si on avait la possibilité d'aller plus loin dans le projet, si vous voulez. Je vais vous citer un exemple. On a l'église qui est vraiment mal en point. On a réussi à la sécuriser. Donc on a fait des échafaudages partout. Mais ça va être un travail de 20 ans. peut-être pour refaire une belle église. Ça va jamais assez vite.
On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je vous propose, Franck Bailly, c'est de revenir, c'est-à-dire que on vous rejoindra, puis vous, si vous organisez quelque chose, n'hésitez pas à nous joindre. C'est un peu le but de cette émission de proximité. Et merci d'avoir été avec nous. Je sais en plus, puisque il est 18h20, c'est l'heure où on peut se rapprocher de l'apéritif. Et qui dit apéritif dit champagne dans votre région. Et comme je sais que vous êtes viticulteur, eh bien, on boit le champagne avec vous, en tout cas. Merci, merci Franck Bailly d'avoir été avec nous. Et à très bientôt
merci
sur
RCF. Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
18h30, merci Jean-Pierre Benoît, merci Franck Bailly. C'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce lundi 20 novembre 2023, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est cette semaine. À Charleville-Mézières, la ville et Cap Emploi organisent le troisième village handicap mercredi. Le diocèse de Chalon et l'association Alliance Vita proposent ce mardi une soirée conférence-débat autour du thème « Choisir sa mort peut-il devenir une liberté, voire un droit en France ?»
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La cinquième édition de Faraway, le festival des arts rémois, a été présentée ce matin. Il se tiendra du 30 janvier au 10 février. On y reviendra davantage dans nos prochaines éditions. Nos stagiaires à la rédaction étaient à ce rendez-vous ce matin au manège de Reims où les différentes institutions qui participent à l'événement ont présenté ce grand rendez-vous à venir pour la rentrée 2024. Kylian, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Ça vous a convaincu cette présentation? Il y a des événements, des spectacles où vous vous êtes dit c'est bon, on prend le pass 3 spectacles à 15 euros lorsqu'on en est étudiant, 30 euros si l'on ne l'est pas et on a envie d'y aller?
On a déjà repéré certains spectacles qu'on allait aller voir.
Ah oui d'accord, il dit on parce qu'avec Manon ils ont fait leur petit programme comme ça, ils vont faire leur petite sortie, enfin tout va bien. On a également avec nous Mathéo qui présentera la météo tout à l'heure. Mathéo, est-ce que ce spectacle ce matin, cette présentation, ça vous a plu?
Oui, c'était intéressant à entendre.
C'était sa première conférence de presse ce matin à Mathéo. Coup d'envoi de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ce lundi, rendez-vous incontournable de l'agenda social et économique. Elle permet aux différents territoires de mettre en avant les initiatives prises pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. À Charleville-Mézières, la ville et Cap Emploi 08 s'associent pour organiser la troisième édition du village handicap. Présentation avec Damien Lerouge, chargé de communication pour Cap Emploi 08.
Donc cette année, il y a 82 partenaires qui sont présents, donc c'est quand même important, enfin on va dire, voilà. Et ça permet du coup aux demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, mais pas que, parce que ça peut être aussi une famille qui a besoin d'informations et qui a besoin de ces informations, ils peuvent venir également sur le village. Donc du coup, 82 partenaires avec des employeurs et les demandeurs d'emploi pourront directement rencontrer des employeurs et déposer leur CV auprès des employeurs présents. Et puis, ce qui permet aux employeurs de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap ou pour leur futur recrutement, d'avoir un vivier de candidature sous la main pour, quand ils doivent recruter, d'avoir rencontré telle ou telle personne sur le village. Ça pourra permettre justement à des personnes de retrouver un emploi.
Trois espaces seront proposés au public pour mettre en avant le numérique source d'emploi pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité numérique source d'inclusion avec un volet accès aux droits, le numérique source de nouvelles formes de compensation du handicap. Demandeurs d'emploi et employeurs pourront se retrouver. Le mieux est de venir avec CV et lettre de motivation pour optimiser ses chances. Damien Lerouge.
Chacun a travaillé déjà son CV en amont, hein, puisque chaque demandeur d'emploi a aussi du coup la possibilité de travailler son CV dans les agences Pôle emploi, avec les conseillers Cap emploi ou dans d'autres structures. Du coup, on invite vraiment les personnes à venir avec leur CV parce que c'est important, si on rencontre un employeur, de pouvoir laisser ses coordonnées pour pouvoir être rappelé si un employeur a besoin de recruter quelqu'un dans un futur proche. Donc voilà, on conseille vraiment de venir avec son CV. Et puis, il y aura aussi, par exemple, un atelier numérique avec Cap Emploi, du coup, où les personnes pourront déposer directement leur CV sur le site internet de Cap Emploi Ardennes. Et ces CV-là sont après mis sur le site internet et consultables des employeurs également. Voilà.
Le village Handicap 3.0 est à retrouver mercredi à Charleville-Mézières au marché couvert de 9h30 à midi et de 13h à 16h30. Ordonné prêtre du diocèse de Troyes en juin 2022, le père Hubert Banco a été suspendu de son ministère presbytéral par son évêque, Mgr Alexandre Joly. Se trouvant dans la difficulté à vivre le célibat, le père Hubert Banco a exprimé auprès de son évêque son souhait d'être reconduit à l'état laïque, respectant sa décision tout en la regrettant. Mgr Joly a confirmé via un communiqué ce dimanche qu'il a suspendu Hubert Banco de son ministère presbytéral. Le projet de loi sur la fin de vie qui devrait ouvrir l'aide active à mourir sera sur la table des conseils des ministres en décembre avant une arrivée au Parlement au premier trimestre 2024. Un sujet qui fait peur, qui pose question, qui fait débat. C'est pourquoi le diocèse de Chalon et l'association Alliance Vita, qui vient en aide aux personnes fragilisées par les épreuves de la vie, souhaite offrir un espace de réflexion sur ce sujet, comme nous l'explique Caroline Roux, directrice générale adjointe d'Alliance Vita.
Le président de la République a engagé un débat sur ces questions. On a une convention citoyenne et il a annoncé un projet de loi qui pourrait ouvrir l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Du coup, c'est important de pouvoir offrir un espace de réflexion sur ce défi de la fin de vie.
Ce mardi 21 novembre, une soirée conférence-débat sera proposée autour du thème « Choisir sa mort peut-il devenir une liberté, voire un droit en France ?» avec l'éclairage et l'expertise de Caroline Roux.
Je coordonne un service qui s'appelle SOS Fin de Vie et nous constatons beaucoup de confusion, de méconnaissance à la fois des lois qui ont été votées en France, des termes qui sont utilisés dans ce débat, que ce soit acharnement thérapeutique, euthanasie, suicide assisté. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que justement définir les termes du débat et puis ensuite engager une réflexion sur les dangers d'une légalisation de la levée de l'interdit de tuer qui est fondateur dans la relation entre soignant et soigné. Et puis comme je m'occupe aussi beaucoup du développement international, je donnerai un aperçu, un focus on pourrait dire, de ce qui se passe à l'étranger pour les pays qui ont légalisé ces pratiques.
L'idée pour Caroline Roux est d'ouvrir la réflexion, que les personnes puissent avoir un éclairage et puissent discerner dans tout ce qui va pouvoir être dit dans ce débat.
Et ce qui les intéresse beaucoup aussi, c'est notre réflexion sur la manière dont on voit ce qui pourrait être amélioré. On ne dit pas que la situation est exemplaire actuellement, d'autant plus que le système de santé est en crise. Ce que je vais essayer de faire, c'est de soulever les vrais sujets qui doivent être soulevés dans ce débat.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le rendez-vous est prévu mardi, donc demain à 20h, à la chapelle des Récollets de Châlons-en-Champagne. Entrée libre. Football, le Stade de Reims féminin s'est incliné sur la pelouse de Montpellier samedi à l'occasion de la 8e journée de D1 Arkema. 2-1, les Rémoises reculent à la 6e place du classement avec un match en moins. Pour leur entrée en lice en Coupe de France, les Troyens se sont fait sortir 2-1 sur la pelouse d'Épinal, alors que de son côté, Reims-Sainte-Anne a dominé Boulogne-sur-Mer lors de la séance de tir au but. Il y avait eu 1-1 dans le temps réglementaire. Basket Pro B, le Champagne Basket est retombé dans ses travers en tombant 87-65 à Pau. L'Alliance champenoise est 13e du championnat. En Liga de volley, Chaumont a dominé Saint-Jean-d'Illac 3-7-0, un succès qui place les Hauts-Marnais en 2e position dans la compétition. 18h38, avant de refermer ce journal, place à la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Mathéo Hardy. Il est en 3e au collège de Signy-l'Abbaye, il nous rejoint pour une petite semaine. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce mardi?
Alors pour ce mardi, l'hiver se ressent dans le Grand Est car en partant des Ardennes à Rethel, il fera 8 degrés avec un temps nuageux et à Charleville, 7 degrés avec un temps brumeux. Dans la Marne, il y aura un temps très nuageux avec 9 degrés à Reims le matin et 11 degrés l'après-midi à Châlons en Champagne. Puis pour tout le département, un vent à 10 km/h. Ensuite, pour l'aube, il va faire un temps très gris le matin à Troyes avec 9 degrés. Et l'après-midi, le soleil se montrera légèrement sur l'est du département avec 13 degrés. En Haute-Marne, le temps vire au gris à Saint-Dizier et Chaumont pour 8 degrés le matin et un vent à 18 km/h. L'après-midi, ça ne change pas à Langres, de la brume et 7 degrés. Et demain, on fête la Saint-Hélios.
Merci Mathéo pour cette première météo en direct. Ainsi se referme le journal de 18-19 en Champagne. Continue sur RCF.
le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Nos auditeurs en ont entendu parler tout au long de la journée et vont en entendre parler tout au long des 7 prochains jours à 18h40. Aujourd'hui, RCF lance son Radio Don, campagne annuelle où on sollicite le soutien de nos auditeurs pour qu'ils soient aussi des donateurs. Le président de RCF Cœur de Champagne, Gabriel Francard, est avec Christopher Fausten.
Bonjour Gabriel Francard.
Bonjour Christopher.
Président de la radio RCF Cœur de Champagne, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans le cadre de cette semaine du Radio Don, une semaine très importante pour l'ensemble des radios associatives RCF, du réseau RCF à travers ses 64 radios en France et en Belgique. Concernant la radio RCF Cœur de Champagne, comment se porte la radio à l'heure où on se parle ?
Alors c'est une radio qui a déjà beaucoup plus de 30 ans. Les années passent et la radio perdure et la radio se tient pas trop mal. On a des soucis parfois, comme cette année, où on ne sait pas pourquoi, les dons, parce que c'est l'objet de notre interview, les dons sont en retard. On vient de faire le point là, à l'instant, et il faudrait qu'on reçoive 25% des sommes de l'an dernier ne sont pas encore arrivées. Donc il nous reste un mois pour récupérer 25% des dons annuels. Donc ça fait un peu peur, parce qu'on a trouvé, en ce moment, il y a moins de 300 donateurs. Alors qu'habituellement, on frôle les 500. Donc en ce moment, il nous manque au moins 100 à 150 donateurs qui n'ont pas encore fait leur chèque.
Comment ça se fait ? Il y a une baisse de donateurs ?
La question, c'est qu'on ne sait pas encore y répondre. Alors, les appels aux dons sont variables dans les saisons. Je pense aussi que les auditeurs voient arriver des courriers. On met à la poubelle parce qu'il y a des courriers, il y en a tellement et toujours... Tout le monde passe à l'appel à la générosité des chrétiens, des non-chrétiens, mais de tous ceux qui veulent s'investir sur des actions culturelles, cultuelles, bénévoles, enfin tout ce que l'on veut. Hein, et les sollicitations sont extrêmement nombreuses. Et donc, on espère que les fins d'année vont être un peu plus productives que les autres années, parce qu'on est en retard. Voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas en dépôt de bilan. Je rassure nos auditeurs, on émettra encore au mois de janvier, mais on ne peut pas se permettre d'être en retard tous les ans comme ça.
Surtout que la technologie évolue, Gabriel Francard, à travers la radio numérique, à travers l'évolution du matériel, la rénovation du matériel, ça a un coût aussi. C'est la raison pour laquelle la situation peut être éventuellement critique à l'avenir, Gabriel Francard, concernant RCF Cœur de Champagne.
Justement, quand je dis tout à l'heure qu'on a plus de 30 ans, presque 35 ans d'existence, ça veut dire que certains équipements, je parle en particulier des émetteurs, sont très vieillissants pour certains. Et donc, nous avons... Alors, on a fait un gros effort à Épernay. Donc, à Épernay, c'est des équipements neufs. On vient encore faire des interventions sur Chalon, c'est pas trop mal. Sur Sainte-Menoux, on n'a pas de soucis, parce qu'on essaye de faire aussi des jeux de chaises musicales. Quand un équipement n'est plus adapté à un émetteur, on le prend, on va le mettre sur un autre émetteur. Donc, on remplace comme ça. Par contre, le gros souci que l'on a, et c'est un souci passionnant pour moi, ceci dit, c'est l'évolution normale. C'est l'Arzicourt qui dessert le silo de la coopérative Vivesia à l'Arzicourt, qui est un point haut sur le Pertois, qui est très agréable parce que on arrose bien Vitry de François, on arrose bien
la cité Bragarde, Saint-Dizier.
Saint-Dizier, puisque nous, on a une autorisation pour émettre. C'est pas nous qui décidons, c'est pas l'évêque qui décide non plus. C'est ce qu'on appelle maintenant l'ARCOM, Autorité de Régulation des Communications Audiovisuelles, qui nous autorise, qui nous a donné un champ à émettre le nord de la Haute-Marne. Et donc, c'est important pour nous que cet émetteur-là fonctionne bien. Et comme Vivesia donne un autre statut à son silo, on ne pouvait pas garder nos équipements à 40 mètres d'eau. Donc, on va les redescendre, on va les moderniser, on va fiabiliser, parce que il y a des fois, on disjonctait, ça disjonctait, où il y avait un coup de foudre. Mais le silo étant occupé en permanence par des salariés Vivesia, il rebasculait sur le disjoncteur et on repartait. Donc je dis ça parce que les auditeurs de Vitry de François ont dû plusieurs fois nous faire la remarque. Donc on va avoir un bel équipement, sauf qu'il faut que je mette 20 000 euros. On va
20 000 euros quand même.
Pour la bande FM.
20 000 euros pour le fonctionnement d'un émetteur, on parle.
Pour refaire l'émetteur de l'Arzicourt.
Voilà, sachant qu'il y en a 5 pour la radio locale RCF Cœur de Champagne. Et là, on parle d'un seul émetteur, 20 000 euros.
Mais les autres n'ont pas besoin de ces investissements-là. Les autres, comme je l'ai dit, ça a été fait, etc.
Bien sûr.
Et là, c'est parce qu'on passe d'un équipement qui était à 40 mètres de haut, on le remet au ras du sol pour qu'on puisse y accéder sans avoir le souci d'accéder au silo. Et puis, ça permet aussi de remettre en sécurité la foudre, etc. Enfin, bref. Exemple précis. Pour remettre les nouveaux émetteurs, on nous a demandé un diagnostic de l'APAV. Donc, c'est un diagnostiqueur.
Alors, la PAV, c'est ?
C'est un diagnostiqueur de risque industriel. En
d'accord.
Gros, si on veut faire court, hein, parce que le développé du sigle APAV, je peux vous dire. Et pour aussi, sa petite histoire, c'était APAV, c'est à la fin, c'est machine à vapeur, en plus.
D'accord.
Alors, ceux qui connaissent bien la PAV pourront décliner. C'était marrant, le sigle. Maintenant, tout le monde dit APAV. Bref, elle nous a demandé 2500 euros.
Oui.
Pour venir prouver aux assurances de Vivesia.
Déjà des 1500.
Que notre antenne à 40 mètres de haut ne va pas créer des arrivées de foudre qui risquent d'enflammer la poussière d'un silo de céréales. Donc il fallait... c'est très sérieux, c'est normal, parce que c'est comme... Un silo, c'est un équipement classé, comme on dit au sein de la DREAL, c'est-à-dire l'administration spécialisée là-dessus, c'est un établissement classé. Et donc il faut qu'on soit certain qu'on ne va pas faire exploser avec nos antennes, effectivement, la poussière de céréales. Bref, tout ça, c'est pour dire qu'on travaille sérieusement, proprement, que c'est un coût. Mais après, on travaille dans la durée.
On travaille dans la durée. Alors en tout cas... On invite nos auditeurs, bien sûr, à soutenir la radio RCF, hein, le réseau RCF et notamment la radio RCF Cœur de Champagne à travers eh bien ces différents projets, notamment l'émetteur de l'Arzicourt qui émet sur Vitry-le-François et Saint-Dizier. Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne avec nous sur RCF. On parle de projets. Il y a peut-être d'autres projets qu'on voudrait évoquer.
Des projets beaucoup plus importants encore.
Oui.
Intéressants, passionnants, parce que vous savez que maintenant, il y a la radio numérique terrestre qui fonctionne,
oui,
comme la TNT il y a quelques années. Et donc, depuis le mois de mars, en Champagne-Ardenne, la radio fonctionne avec des émetteurs qui sont... Là, on n'est pas propriétaire, là. C'est une location, puisque on est obligé, pour faire la radio numérique, d'être dans un groupement de 13 radios. Ça, c'est imposé aussi par l'autorité de régulation, l'ARCOM. Et donc, on est dans ce groupement avec nos amis de Reims. Et bien sûr, on fait un partenariat avec eux. Et là, les émetteurs sont loués. Sont loués ou à TDF, société publique, ou à Towercast, société privée. Et donc, on a, nous, pour ce qui nous concerne, pour notre territoire, notre diocèse, mais diocèse élargie, on est présent à Châlons, sur un émetteur à Châlons, un émetteur sur Épernay, un émetteur sur Sompuy, c'est plus l'Arzicourt, c'est Sompuy, pour arroser le reste du sud de la Marne. Et il se trouve que, comme c'est une obligation d'être sur la Champagne-Ardenne, il y a un émetteur à Troyes également. Mais il n'y a plus RCF à Troyes. Donc, les radios, les 13 radios qui sont autour de nous, les 12 radios qui sont autour de nous disent mais qui paye pour 3? Il y a une radio, il faut que... Alors, du coup, on s'est mis d'accord avec Reims, en accord aussi avec les évêques. C'est Châlons, donc RCF Cœur de Champagne, qui paye l'émetteur de, la location de l'émetteur de 3. En espérant que les Troyens qui m'écoutent, là, aujourd'hui, j'espère, nombreux.
Les Aubois, oui.
Les Aubois, même. T'as raison, Christopher, c'est pas les Troyens, ce sont les Aubois. Vont comprendre qu'on dépense, nous, pour qu'eux retrouvent l'écoute.
De RCF qu'ils ont perdu depuis quelques années.
RCF, voilà. Donc, ils ont, le Nord de l'Aube bénéficie de RCF, des émetteurs de Cézanne et de Vitry de François, et on n'arrose pas trop mal le Nord de l'Aube. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà des donateurs au bois, quelques-uns, qui nous écoutent et qui sont généreux avec nous. Donc, merci à eux. Mais maintenant, ces émetteurs-là vont me coûter 12 000 euros de location par an. Ceux que je viens d'énumérer, les quatre que je viens d'énumérer. Donc, vous voyez, 12 000 euros. Donc, pour ce qui est du diocèse de Châlons, ce ne sont pas des nouveaux donateurs, parce qu'ils écoutent de la bande FM actuellement, sur 3. On espère qu'on va revenir les anciens donateurs de RCF. Et notre objectif, ce n'est pas que d'histoire de gros sous. Aujourd'hui, je vais arrêter de parler d'argent tout le temps, parce que ça va agacer nos auditeurs. C'est aussi de diffuser cette excellente radio qui s'appelle RCF, qu'elle soit Cœur de Champagne ou qu'elle soit nationale. Et donc, que les auditeurs troyens soient contents de retrouver une radio de qualité, qui avait un gros succès du temps où il y avait RCF au bout de Marne. Et donc, on espère que, reconnaissant de la qualité de ce qu'on va leur apporter, et auquel on veut les associer. On veut associer ces auditeurs à nos émissions.
Alors justement, très belle transition, Gabriel Francard, on rappelle, président de RCF Cœur de Champagne, avec nous aujourd'hui sur RCF dans le cadre de cette semaine du Radiodon. On a parlé des différents projets d'émetteurs, l'émetteur FM de l'Arzicourt. On parle également de l'investissement des émetteurs pour la radio numérique. Ça a un coût, mais le Radiodon, c'est pas uniquement le don financier, on a aussi le don de la générosité à rendre service, à être apporter son aide au fonctionnement de la radio RCF. Et entre guillemets, c'est une belle transition parce qu'on parle eh bien de producteurs, de vouloir couvrir l'actualité auboise à travers des émissions, à travers la rédaction. Et puis, pourquoi pas rejoindre aussi l'aventure SF à travers le bureau d'administration, par exemple.
Ah oui, tout à fait. La porte est largement ouverte. Chaque année, comme tout le monde, on prend une année de plus. Donc, on pense quand même à faire venir du 109. Parce que, effectivement, la radio, moi, ça me passionne. Donc, j'arrive à peu près à me tenir au courant. Mais ceci dit, ça évolue. Et moi, je ne suis pas dans les habitudes de consommation culturelle, de consommation tout court, ou de loisirs, hein, ou de réflexion de toute la jeune population. Donc, notre présence sur les réseaux sociaux contribue à sensibiliser à RCF ce public-là. Mais également, c'est de se dire, si on a des producteurs plus jeunes, si on a des correspondants, je dis bien, c'est-à-dire des gens qui sont sur leur territoire, qui mènent leur vie, mais qui nous passent un petit coup de fil de temps en temps pour dire, ben, il se passe ça chez moi.
Eh bien voilà, le message est passé. Merci Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne, pour ce genre d'aide, de générosité. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos radios locales, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, pour les dons en argent, un numéro de téléphone, le 0810-333-777, 0810-333-777, ou par internet don.rcf.fr. N'oubliez pas de sélectionner vos radios locales, RCF Reims-Ardennes ou RCF Cœur de Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Et toujours dans le cadre de cette campagne annuelle du Radiodon, à Reims aussi, vous pouvez nous aider.
Avec nous aujourd'hui Geneviève Loison, elle est trésorière de RCF Reims-Ardennes dans cette semaine du Radiodon. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Geneviève.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on tend toujours la sébile pendant cette semaine du Radiodon. Alors il faut rappeler quand même que notre radio, c'est pas une radio commerciale, Geneviève.
Non, pas du tout. Elle ne fonctionne pas avec des publicités. Comme ça, vous avez des émissions qui sont fluides, pas de coupure avec ces fameuses publicités.
Alors, est-ce qu'on a, au niveau du fonctionnement, quand même quelques recettes? On a quand même peut-être des subventions?
Voilà, donc notre radio ne fonctionne pas sans argent, bien sûr. Pour le fonctionnement, c'est avec 50% de subventions, mais principalement du diocèse, des mécènes, et 50% avec vos dons.
C'est vrai que au début d'année, on établit des reçus fiscaux, mais en ce moment, on réclame à nos auditrices, à nos auditeurs, un peu de dons, parce que cette fin d'année, elle est toujours importante, hein, la dernière semaine avant Noël.
Bien sûr, parce que nous devons clore nos comptes, donc nous avons besoin de vos dons. Il faut savoir que notre radio fonctionne avec une équipe de bénévoles, et également avec 3 salariés qui font la transmission des émissions.
Alors il faut rappeler aussi que on va pas tout énumérer, mais il faut payer aussi les émetteurs. Il y a les antennes, il y a les factures qui arrivent régulièrement. Mais il faut dire que tous ceux qui donnent, ils ont des avantages fiscaux qu'on peut quand même rappeler. Parce que si vous donnez, vous pouvez quand même vous faire dégager un petit crédit d'impôt.
Voilà, nous sommes donc une association où on vous établit donc des reçus fiscaux en début d'année. Donc pour les personnes qui sont imposées, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur vos dons, qui n'est pas négligeable puisqu'elle est de 66%. Je vais vous donner un exemple. Pour 50 euros versés, votre don vous coûtera réellement, après déduction des impôts, à 16,50 euros.
Alors ça, c'est à retenir. Quand vous versez 50 euros à RCF, on vous fait un reçu fiscal et finalement, ça ne vous coûte que 16,50 euros. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, à la date de novembre 2023, on est à peu près dans les clous par rapport à l'année dernière, mais il nous manque encore pour le mois de décembre, il nous manque quand même pour finir, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça que la fin d'année, elle est toujours très importante. C'est vrai que beaucoup d'associations demandent...
C'est vrai que tout le monde demande, c'est l'époque des fêtes. Il faut rappeler quand même que c'est un peu notre mot d'ordre. Le partage, la joie se partage. Et vous lancez un appel aux auditeurs, vous dites, ben, venez à nous.
Exactement. Donc la joie se partage sur les ondes. Mais pour que ce partage soit fait sur les ondes, nous avons besoin de vos dons.
L'appel est lancé. Merci Geneviève. Geneviève Loison, trésorière de RCF Reims-Ardennes. Profitez de cette semaine du Radiodon pour donner à RCF. et pour essayer donc de faire vivre cette radio qui est, vous l'avez rappelé Geneviève, une radio associative, hein, qui ne vit pratiquement pas de pub, hein, il n'y a pas de pub, mais qui justement a besoin de vos dons. Merci Geneviève Loison d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
À très bientôt sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nos meilleurs ambassadeurs, ce sont vous, nos auditeurs donateurs. C'est pour cela que tout au long de cette semaine, on va vous proposer plusieurs rencontres avec une première dès ce soir. Geneviève, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes une fidèle auditrice de RCF, bien plus que ça encore, une fidèle donatrice de RCF Reims-Ardennes. On a envie d'en savoir un petit peu plus, Geneviève, avec vous. Pourquoi c'est important pour vous d'écouter la radio RCF ?
Écoutez, RCF, ça fait vraiment partie de ma vie. Et j'ose même plus imaginer ce que serait ma vie sans cette radio et tout ce qu'elle m'apporte sur le plan spirituel et puis surtout une ouverture aux mille problèmes du quotidien de notre planète. J'aime beaucoup le temps de prière du matin déjà, qui est œcuménique, qui est retransmis d'heure en heure et qui offre une aide dans l'interprétation de la parole du jour. Et c'est donné justement avec des regards différents, c'est ça que j'aime, selon que c'est un prêtre, un pasteur, homme ou femme, ou une théologienne. J'apprécie beaucoup aussi d'écouter notre évêque nous parler tout simplement le vendredi de ce qu'il vit à tout niveau. On le sent très proche de ses diocésains. Et puis, ses interventions nous unissent davantage, non seulement à lui, mais à la vie de l'Église diocésaine. Divers intervenants de la méditation de fin de journée, de 19h10, j'aime beaucoup aussi actuellement, parce que là, ils ont des charismes différents qui offrent encore des nouvelles interprétations de la parole. Il y a la prière du soir aussi, monastique, que j'écoute de temps en temps, qui relie à tous ces priants que sont les moines. Et puis, je remercie aussi RCF de retransmettre sur place à Reims là, les grandes fêtes ou les grandes célébrations qui permettent aux personnes âgées ou fatiguées de ne pas manquer ces moments forts et festifs, puis de rester membres à part entière de notre Église.
Ah bien, dis donc, ça, Geneviève, c'est un sacré témoignage qui fait chaud au cœur à toutes les équipes de RCF, les équipes techniques, les équipes rédactionnelles. J'allais dire que vous êtes presque branchés 24-24. Vous connaissez la plupart de nos programmes et vous trouvez qu'il y a cette bonne mayonnaise qui se crée, j'allais dire, entre les programmes nationaux et les programmes locaux. D'après ce que vous nous avez dit, vous êtes branché un petit peu sur les différents programmes.
Sur différents programmes, oui, parce que j'écoute aussi sur le plan national. Je trouve que c'est une ouverture aux événements et à la vie du monde, et surtout avec des intervenants qui sont des gens de qualité, puis très connaisseurs de la question, qui sont ou bien des spécialistes ou des gens habitant le pays dont on parle, ce qui apporte vraiment une grande richesse au dialogue. Et puis j'aime beaucoup surtout le ton sur lequel sont faites les interviews, qui n'est ni caustique ni acide, et ça rend les échanges vraiment intéressants, c'est fait vraiment dans le respect de l'interlocuteur. Puis les réalités de l'Europe, de la ville, de notre région aussi, tous les thèmes abordés, ça permet de mieux connaître notre milieu environnant. J'apprends des tas de choses sur Reims, sur le monde économique, agricole, culturel, scolaire, la santé, enfin... C'est des interviews bien menées et puis non orientées, c'est ça aussi que j'aime, c'est positif. Et j'aime bien de géopolitique de Claude Ruiz à Reims, bien. Et au niveau général, Thierry Lyonnais a un art, je trouve, formidable d'interviewer les gens puis de faire sortir le meilleur chez son invité. Voilà. Et puis, je trouve que les journaux sont passionnants parce que ça nous informe sur les problèmes de fond et vraiment d'une façon très positive. Et on n'est pas inquiet, j'allais dire, de la véracité de ce qui est dit. Voilà. Et j'aime aussi, je trouve une bonne idée d'avoir fait intervenir les jeunes qui sont auteurs de leur émission, et ça, je trouve ça très très bien.
On leur passera le message. En tout cas, Geneviève, un grand merci pour votre témoignage. On a quand même une dernière question pour vous, Geneviève. C'est vrai qu'on l'a dit, vous êtes une fidèle auditrice, ça on l'a bien compris, aussi une fidèle donatrice. Vous savez combien c'est important pour nous sur RCF, parce que si on existe, si on fait ces programmes, c'est aussi grâce à vous, les donateurs. Pourquoi c'est aussi important de nous soutenir ?
On est tous conscients, je pense, les auditeurs, de vos difficultés, surtout actuellement avec les changements permanents de tout ce qui est moyens techniques et qui exige une remise à jour permanente, certainement, de tout le matériel. Puis le personnel qui est avec vous. Donc je pense que on est tous très conscients que la radio a besoin de nous pour vivre et on essaye de faire ce qu'on peut. On aimerait faire davantage toujours, mais bon, quelquefois on est un petit peu limité aussi. Mais je parle beaucoup de vous autour de moi parce qu'il y a encore beaucoup de Rémois qui ignorent votre existence et qui ignorent les bienfaits apportés par cette radio et vraiment dont on remercie les auteurs et les journalistes au quotidien.
Eh bien, un grand merci Geneviève pour votre témoignage. Beaucoup d'éléments intéressants dans votre réponse, évidemment. Déjà dire qu'il n'y a pas de petite générosité. Chaque don compte, chaque don est important et un grand merci. Et puis effectivement, partager la joie sur RCF, c'est aussi en parler autour de vous, faire connaître notre station parce que plus on est d'auditeurs, plus on est de donateurs, plus on peut vous proposer des programmes de qualité. Donc un grand merci pour ce que vous faites, Geneviève. Vous êtes quelque part une auditrice, une donatrice et une ambassadrice de notre radio. On vous remercie pour cela, Geneviève.
Merci.
Voilà, ainsi se referme le magazine régional ce soir. Nous, on se retrouve demain, 18h10. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Tout de suite, l'information nationale.